Les écoliers et les autres, il est 17h sur France Culture. Bonsoir à tous, bienvenue dans Rue des Écoles, le magazine de l'éducation de France Culture. En fin d'émission, focus sur la fabrique de l'histoire scolaire avec Séverine Liattard qui viendra nous parler de son beau projet radiophonique sur France Culture évidemment. Raconter la manière dont l'histoire s'enseigne à l'école aujourd'hui. Et le dossier de ce Rue des Écoles historique, raconter l'histoire de France, que savent, que disent les adolescents d'aujourd'hui. Et nous devons cette idée d'émission à un formidable ouvrage, Le Récit du commun, l'histoire nationale racontée par les élèves aux éditions universitaires de Lyon, presse universitaire de Lyon. J'accueille Françoise Lantôme, enfin en duplex, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure des universités en sciences de l'éducation à l'Université Lumière Lyon 2. Entre autres, merci à l'équipe du Bureau de Lyon de vous accueillir ce dimanche. Vous avez co-dirigé cet ouvrage avec Jocelyn Letourneau et dans ce studio avec moi, Laurence Decoq. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire-géographie en lycée à Paris, membre du collectif Aggiornamento Histoire Géo. Il y a plein de collectifs de professeurs d'histoire géo. C'est le vôtre et vous avez co-dirigé un chapitre, co-rédigé un chapitre de ce livre consacré aux acteurs de l'histoire et c'est tout à fait passionnant. Passionnant également les actualités de cette semaine, actualité de l'éducation au menu lycée et éducation prioritaire, palmarès des écoles de commerce, survêtements et plus sérieusement un ambitieux projet de formation des imams à l'université. Et c'est avec Catherine Decopé, journaliste à la rédaction de l'Étudiant, partenaire de Rue des Écoles.
Réunis au sein du collectif francilien Touche pas ma ZEP, les enseignants se mobilisent depuis plusieurs semaines pour que les lycées soient réintégrés à la nouvelle carte de l'éducation prioritaire.
On estime que les enfants, en sortant du collège finalement, ils n'ont plus besoin de moyens spécifiques quand ils vivent à Sarcelles, à Garges, alors qu'on sait très bien qu'ils appartiennent à des milieux socioculturels où ils auraient besoin d'être mieux encadrés, d'être plus aidés, d'être plus soutenus. Concrètement, ça se traduit au lycée de Sarcelles par une hausse des effectifs depuis plusieurs années. Donc on a des classes de plus en plus chargées, ce qui fait qu'on peut s'occuper de moins en moins individuellement de nos élèves.
Commençons par ce mouvement qui mobilise de plus en plus de lycées depuis début septembre, Touche pas à ma ZEP. En l'occurrence, on entendait une enseignante de Sarcelles, un mouvement, Catherine, qui fait écho en miroir au rapport du CNESCO qui dénonçait l'inefficacité de l'éducation prioritaire.
Oui, bonjour Louise. Alors ce mouvement s'est traduit mardi dernier, on l'a entendu, par une grève et une manifestation d'enseignants devant le ministère de l'Éducation nationale. Pour rappel, ces établissements s'inquiètent d'une disparition de l'éducation prioritaire, rien que ça, pour les lycées, à la suite de la réforme de 2014 qui, je vous le rappelle, a transformé les ZEP, donc les zones d'éducation prioritaire, en REP, réseau d'éducation prioritaire. Cette réforme, dans les faits, n'a concerné que la scolarisation obligatoire, élémentaire et collège, donc, en laissant de côté les lycées. Mais jusqu'ici, le ministère a toujours assuré un maintien des moyens supplémentaires accordés aux lycées, anciennement classés ZEP. Donc le sujet est en débat. Face à ce flou, quand même, certains lycées se sont mobilisés avec cet appel « Touche pas à ma ZEP » qui aurait recueilli la signature de 45 établissements à ce jour et pas seulement Louise en Ile-de-France, on en a aussi un à Amiens. Et donc en réponse à une première mobilisation fin septembre, le ministère a annoncé le maintien de la prime des enseignants de ces lycées ZEP et son prolongement jusqu'en 2017.
Mais il n'y a pas que ça.
Il n'y a pas que ça puisque évidemment les établissements classés ZEP étaient caractérisés par un effectif réduit dans les classes et un accompagnement des élèves, donc quid de ces deux mesures, c'est là le cœur du sujet. Reste aussi en question l'avenir du système de points bonus, un système qui favorise la mobilité des enseignements de ZEP vers des établissements moins difficiles après une certaine ancienneté. Donc un sujet à suivre de près. Les lycées mobilisés ne devraient pas lâcher prise dans les semaines qui viennent.
Et on devrait en reparler. On reste au lycée avec une actualité qui fait plutôt sourire pour le coup et qui a occupé quelque peu les médias cette semaine, le jogging.
La liberté des élèves n'est pas infinie, hein. Aller au lycée, c'est pas se promener à la maison après une grasse matinée, c'est aller dans un lieu de travail et apprendre effectivement qu'on ne s'habille pas n'importe comment, dans n'importe quelle circonstance, fait partie de la formation des jeunes. Savoir qu'on ne se présente pas à un entretien d'embauche en jogging, ça peut être utile dans la vie.
Alors on peut dire jogging, on peut dire survêtement. En tout cas, vous avez entendu Philippe Tournier, secrétaire national du principal syndicat des personnels de direction, le SNPDEN, au micro de nos confrères de France Info. C'était mardi dernier, Catherine.
Oui, alors quelle est cette actualité? On ne va pas en faire des tonnes, mais en ces temps de susceptibilité vestimentaire importante dans le débat politique, vous l'avez remarqué, l'interdiction du jogging dans un lycée des Yvelines, le lycée Condorcet de Limay, n'est pas passée inaperçue. C'est le Parisien qui a signalé le cas. Les lycéens contrevenant au règlement ont bien été collés depuis la rentrée, ce que contestent bien sûr les lycéens eux-mêmes et certains parents. La situation a en tout cas donné l'occasion à certains journalistes, comme mon confrère Hervé Canard, à l'étudiant, de faire un point de droit sur cette question.
Point très détaillé, j'avoue aussi que j'ai dû écrire sur le sujet. Qu'en ressort-il, Catherine?
Alors, à part les signes religieux ostentatoires et le fait de dissimuler son visage par une capuche, par exemple, rien n'est interdit par la loi. Ce sont donc les établissements qui ont la possibilité d'intégrer des restrictions vestimentaires via leur règlement intérieur, moyennant une validation par leur conseil d'administration, et ce, à majorité des membres. De quoi, en tout cas, broder sur la question, puisque quelques jours plus tard, ce n'est plus le jogging, mais le jean troué qui a fait la une, figurez-vous, cette fois dans un lycée de Fontainebleau, le lycée Couperin, où, visiblement, un climat général de malaise a poussé les lycéens à contrevenir à cette règle instaurée par l'établissement en venant en cours massivement en jean troué. Et toujours selon mon confrère Ravin Canard, certains établissements banniraient même le pantacourt. Bref, le sujet peut à ce rythme nous occuper au moins jusqu'à Noël, Louise.
Ou pas.
Ou pas.
And the Oscar goes to...
Nous n'allons pas parler des Oscars, mais du palmarès de l'étudiant, palmarès des écoles de commerce post-bac, Catherine.
Et oui, cette année, l'ESSEC emporte la première place devant l'ESSEC Global BBA et l'ESCA. Je ne cite que les trois premiers, mais en tout, quelques 29 établissements ont été passés au crible par notre équipe de journalistes pour leur formation post-bac en 4 ans ou 5 ans. Le résultat de longs mois de travail pour récolter auprès des écoles les infos et les vérifier justement pour pouvoir les comparer. Trois ensembles de critères jouent pour ce palmarès général: l'excellence académique, l'international et la proximité avec les entreprises. La nouveauté de ce classement cette année, c'est le retour à un classement général de ces cursus qu'on peut toujours compléter par une approche personnelle. Les futurs étudiants et leurs parents ont donc la possibilité de classer les écoles selon les critères qui les intéressent le plus. Et donc, aux trois critères que j'ai déjà cités, six autres items permettent de se faire une idée plus précise de ces établissements très concurrentiels. On peut citer la sélectivité à l'entrée, l'avis des étudiants ou encore le salaire à la sortie.
Ah oui, intéressant, le salaire à la sortie. En tout cas, ce classement est disponible dans l'étudiant et sur le site du magazine. On poursuit cette revue d'actualité avec une nouvelle initiative concernant la réponse de l'État au risque de radicalisation. Après des formations à la laïcité, le gouvernement souhaite avancer sur la formation sur la langue et la culture arabe à l'université.
C'est une étape de plus dans le débat sur la formation des imams en France, débat relancé après les attentats des mois derniers. La ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, et le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, ont confié mardi dernier à trois personnalités du monde de l'enseignement et de la recherche une mission pour réfléchir à la création, dès la rentrée 2017, de formation à la langue, en effet, formation à la langue et culture arabe au sein des universités publiques. Ces trois personnalités sont Rachid Benzine, islamologue et enseignant, Catherine Maillard-Jaouin, professeure d'histoire de l'islam moderne et contemporain à l'INALCO, et Mathilde Philippe-Gay, maître de conférence en droit constitutionnel à Lyon 3. Au-delà de la langue et de la culture arabe, champ déjà très vaste à mon avis, les formations pourraient concerner l'histoire des civilisations musulmanes ou encore l'histoire de la pensée musulmane selon le communiqué des ministères. Et là encore, il sera intéressant, Louise, de voir concrètement à quoi ces intitulés peuvent correspondre. En tout cas, ces formations s'adresseraient à de futurs imams français, en plus de leur parcours en théologie dans des institutions instituts privés, mais aussi à tous les étudiants intéressés par ces questions dans une optique purement profane. Je cite là aussi le communiqué. Et on parlait donc des formations à la laïcité. Pour info, à ce jour, 17 diplômes universitaires sur la laïcité ont vu le jour dans des établissements du supérieur depuis la remise du rapport du juriste Francis Messner. C'était en mars 2015.
Il n'est pas inutile de le préciser. D'ailleurs, je ne le savais pas, Catherine. Je vous apprends tout de même qu'un documentaire Imam de France avait été diffusé sur France Culture dans l'émission Sur les docs. C'était en décembre 2014. Il est toujours disponible en ligne. C'est un documentaire signé Stéphane Bonnefoy et Assia Ralid, notre réalisatrice aujourd'hui. Enfin, un mot aussi sur le débat des primaires de la droite. Rien ou presque sur l'éducation, mais les téléspectateurs attentifs n'auront pas manqué de noter que les candidats ont appelé à des degrés divers à la baisse du nombre de fonctionnaires. Parmi ces fonctionnaires en France, les enseignants, Nathalie Kosciusko-Morizet, allant même jusqu'à supprimer le statut de la fonction publique pour les futures embauches dans certaines missions où, je cite, cela n'a pas de sens, comme, je cite, enseignant. Voilà, le débat risque d'être nourri ces prochains mois et ces prochaines semaines. Merci beaucoup Catherine Decopé, on vous retrouve la semaine prochaine.
Tout commence quand le premier roi des Francs se fait baptiser et proclamer roi. Le temps passe sans que rien ne se passe. Quand Charlemagne est proclamé roi, il est le plus célèbre des rois carolingiens. Il a conquis un peu plus que l'actuelle France, mais quand il meurt, ses enfants n'arrivent pas à se départager leur territoire. Mais en lançant, une nouvelle dynastie arrive. Mais en 1700, un général français, né à Ajaccio, fait un coup d'état et se fait proclamer premier consul. En 1702, il se proclame consul à vie. En 1704, il se proclame empereur des Français. Pendant son règne, il a réhabilité le droit au culte, il a inventé les lycées, écrit le code civil et plein d'autres choses. Il a presque conquis toute l'Europe, mais s'est fait arrêter par les Anglais. Ensuite, deux grandes guerres éclatent et les crises économiques dévastent les pays européens, pour finalement arriver à aujourd'hui, où quasiment tout le monde a pratiquement adopté la démocratie.
Un grand merci à Nils, notre stagiaire de troisième, pour son excellente lecture. Il s'agit d'un texte tiré de ce livre, Le récit du commun, l'histoire nationale racontée par les élèves. C'est pour ça que nous avons demandé à un élève de lire cet extrait, tiré de ce qui n'est pas une copie, mais un texte qui a été recueilli pour cet ouvrage qui est une enquête. On va y revenir. Alors pourquoi parler d'histoire? Parce que la question posée par l'ouvrage est extraordinairement pertinente. Les élèves racontent-ils l'histoire de France, la nôtre, la leur? Quel récit commun en font-ils en 2016? L'histoire, c'est vrai, bien une passion française, toujours et encore contemporaine. L'enseignement de l'histoire est bien un sujet d'une brûlante actualité, avec par exemple les déclarations de personnalités politiques à droite, entendues à la rentrée, on en a déjà parlé ici, sur la nécessité, par exemple, de privilégier l'enseignement d'un récit national, ça c'est François Fillon, ou de personnalités qui ont convoqué ces fameux ancêtres gaulois, ça c'est Nicolas Sarkozy. Le sous-texte étant peut-être que l'histoire serait aujourd'hui mal enseignée, on va y revenir. Mais pourtant, on va l'entendre, point de mort du récit national et même d'une certaine forme de roman national dans l'esprit et peut-être dans le cœur des élèves, des adolescents, plutôt une réinvention de ceci, comme à chaque époque, avec des faits et personnages qui occupent le devant de la scène historique, scène où la France, comme décor, territoire, entité, concept, reste tout à fait centrale. Et puis l'histoire, c'est aussi le sujet d'ouvrages et de programmes de télévision très populaire, et la connaissance de l'histoire de France relève d'une synthèse où, pour vous citer Laurence Decocq, l'histoire scolaire est à la confluence des savoirs sociaux et des savoirs académiques. Voilà, on va déjà commencer par décrire ce projet, cet ouvrage avec vous, Françoise Lantôme, puisque vous l'avez co-dirigé. 7000 élèves ont été interrogés à l'écrit.
Oui, en effet, avec toute une équipe d'une vingtaine de collègues pluridisciplinaires, nous avons eu l'idée de ne pas prendre comme évident qu'il y avait un récit partagé de l'histoire nationale, mais au contraire d'aller voir, de recueillir des récits des élèves pour essayer de comprendre comment il était organisé, de quoi il était constitué. Était-il toujours organisé par ce qu'on appelle le roman national? Y avait-il des différences territoriales? Et également, on s'est posé la question de l'origine des connaissances des élèves. Et donc, nous avons demandé aux élèves d'où leur venaient leurs connaissances. En plus de leur avoir demandé, raconte l'histoire de France.
Avez-vous été surprise par la présence assez forte, c'est ce qu'on comprend en lisant les textes des élèves et les textes des historiens qui les commentent, par la présence d'un récit, d'un véritable récit?
Oui, il faut nuancer un peu cela par le fait que la forme du texte que les élèves ont produit, ces élèves qui ont entre 12 ans et 19 ans au maximum, la forme du texte ne prend pas exactement toujours la forme d'un récit. Il peut prendre parfois la forme d'une liste ou de mots-clés, une sorte de brainstorming autour de l'histoire nationale. Ceci dit, cela donne aussi des informations. Et puis, il y a des récits très nombreux qui se présentent effectivement comme un récit. Et le récit, dans ces cas-là, il est construit, comme le montre Bruno Garnier, qui analyse ça en narratologue, est construit avec toutes les règles de construction d'un récit. Une intrigue, des personnages, des éléments qui font avancer le récit, comme on peut dire, voilà.
Alors, il y a un élément très présent, ce sont les personnages, les grandes figures de l'histoire de France. J'avoue que c'est un des chapitres de l'ouvrage qui m'a le plus intéressé, Laurence de Coq. Mais pour illustrer, on va écouter encore Niels lire un court passage de récit, puisqu'on va appeler ça comme ça ici, de récit d'élèves.
La France est un vieux pays qui a plus de 2000 ans et qui a connu beaucoup de gens importants, héros et de péripéties. Un des premiers héros français est Vercingétorix, chef gaulois qui résista à Jules César durant la conquête de la Gaule. Napoléon Bonaparte, le plus prestigieux empereur français, instaure l'Empire en France et part pour un monde de conquête. Un des grands héros de la Seconde Guerre mondiale est Charles de Gaulle, général, qui deviendra le premier président de la Ve République.
Laurence de Coq, professeure d'histoire et géographie au lycée. Cette liste, alors voilà, c'est un exemple, mais vous avez pu établir une autre liste des personnages les plus cités. Liste assez surprenante. On commence par Louis XIV, c'est le personnage qui a le plus d'occurrences. Ensuite Napoléon, Charlemagne. Que nous raconte la présence de ces personnages, par ailleurs presque tous masculins?
La présence de ces personnages, déjà, elle reprend une tradition ancestrale de l'histoire scolaire qui repose dans son acte de fondation même, en fait, sur l'idée que chaque événement et que chaque moment clé de l'avancée dans l'histoire repose sur les faits et gestes d'un haut personnage. L'idée étant, en tout cas pour l'école, de provoquer une forme d'empathie, d'identification et d'admiration susceptible d'aider à aimer la France. Voilà. Et alors ça, c'est le constat, on va dire, de l'historienne. Maintenant, le constat de la pédagogue, c'est que même si ces personnages, alors qui sont encore, pour la plupart d'entre eux, on y reviendra peut-être, mais qui sont encore présents dans les programmes scolaires, même si ces personnages sont encore présents, on a beaucoup avancé maintenant sur le plan historique, graphique dans la manière d'écrire et d'enseigner l'histoire, et on s'aperçoit qu'en réalité ces personnages restent là comme des formes de pesanteur incontournable. Et la surprise de Louis XIV en tête de liste, elle doit être référée à ce que dit Françoise dans un autre de ses articles,
Françoise Lantôme
dans un autre de ses articles, c'est-à-dire sur le plan politique, le référent monarchiste très très fort. Voilà. Je pense qu'elle s'explique par ça aussi. Après le caractère masculin.
C'est le roi symbole des rois. On va y revenir à la place des hommes et des femmes. Mais c'est le roi symbole de l'ancien régime, dont certains élèves peuvent dire que c'est lui qui s'est fait décapiter le 14 juillet à la Bastille. Oui. Il y a quelques confusions intéressantes à relever. Il illustre à lui tout seul un système politique, la monarchie absolue, que comprennent très bien les élèves.
Oui, alors les élèves, vous l'avez dit en commençant votre émission, l'histoire scolaire, elle est à la confluence entre les savoirs sociaux et les savoirs académiques. Et donc les élèves, ils aiment lorsque, dans les classes, ils retrouvent des choses qui circulent ailleurs. C'est comme ça, en fait, que ça s'imprime le mieux. Et donc la monarchie absolue, il y a quelque chose d'un petit peu fétichiste autour de cette formule. Et Louis XIV, monarchie absolue, Versailles, en fait c'est le trio, c'est Louis XIV, monarchie absolue, Versailles. Ça fonctionne très bien parce que ça renvoie aussi à quelque chose qu'ils connaissent par ailleurs.
Et vous dites aussi, je crois, pas, c'est bureau...
Séverine Yattard, notre historienne.
Non, mais qui a un peu regardé l'ouvrage, Bruno Gardier, montre aussi comment les comparaisons sont faites. Alors, Louis XIV, c'est la monarchie absolue, comparé à Napoléon, comparé à Hitler, les hommes forts. Il y a comme ça des équations qui s'opèrent, mais qui ne sont pas forcément dues, vous venez de le dire, Laurence de Coq, à justement à l'enseignant ou l'enseignement de l'histoire à l'école, mais dans la société même, en fait. Il y a sans doute ce sorte de perfusion entre des personnages, des événements, des moments historiques.
Alors il y a ça, et puis ça relève aussi de la manière d'apprendre l'histoire. Ça, c'est quelque chose qui a été démontré très très tôt, enfin il y a quelques années maintenant, par les didacticiens, notamment les travaux de... Nicole Lautier, elle a montré qu'en fait les élèves passaient forcément par l'analogie et l'anachronisme pour comprendre les choses. Et donc on voit bien que Louis XIV c'est la monarchie absolue, que Napoléon c'est une forme de pouvoir personnel et que Hitler c'est vraiment, alors c'est l'excès, l'apogée du pouvoir personnel.
La figure du mal absolu. Ça apparaît beaucoup dans les textes. Françoise Lantôme, ce sont des personnages, certes, il y a des personnages héroïques, mais on n'a plus tellement Charles Martel ou Roland Arancevaux. On a plutôt des personnages qui illustrent des idées. Est-ce que vous y voyez un tournant, une évolution dans la manière dont on considère l'histoire aujourd'hui chez les élèves?
Alors, peut-être faut-il relativiser la place des personnages. En règle générale, en effet, les lecteurs sont souvent attirés par les personnages, et surtout les médias d'ailleurs.
Désolée.
En fait, ce n'est pas ce qui structure les récits des élèves. Les récits des élèves sont beaucoup plus structurés par la référence aux politiques. Et comme le disait Laurence de Coq, le personnage est convoqué parce qu'il renvoie à une forme politique.
C'est bien sur cette idée que je voulais vous amener. Voilà, un personnage égale une idée.
Voilà, égale un régime politique et égale aussi un certain nombre de principes politiques. Et donc les élèves racontent l'histoire de France comme une succession de régimes politiques, une succession difficile, souvent conflictuelle, voire guerrière, de régimes politiques qui correspondent aussi à des principes de justice différents. Et ils prennent nettement position, c'est-à-dire qu'ils adoptent un point de vue sur l'histoire. Ils n'ont pas un récit purement neutre, même s'il y a des moments qui sont factuels dans leur récit, mais ils adoptent un point de vue. Et ce point de vue, c'est celui qui valorise une lecture de l'histoire qui va vers le progrès, et ce progrès se manifeste par le respect ou un plus grand respect du principe de liberté et d'égalité.
Et les valeurs de la République qui sont censées être transmises à l'école. On en parle aujourd'hui, à bientôt un an des attentats du 13 novembre. Et c'est vrai que derrière, s'en était suivie toute une réflexion qui avait déjà commencé en janvier sur la transmission de ces valeurs à l'école. On voit qu'elle passe donc par l'enseignement de l'histoire. Et puis comme il faut bien plaisanter un petit peu, donc j'ai relevé parmi ces personnages qui sont cités, donc pas seulement en tant que personnage, on l'a dit, entre Hitler à la 7e place et César à la 9e place, je vais prononcer la phrase la plus bizarre que j'ai jamais prononcée dans une des écoles. Donc, entre Hitler et César, nous avons Nicolas Sarkozy à la 8e place, des personnages les plus cités dans ces récits d'élèves. Laurence de Coq, expliquez-moi.
Non, là, je crois qu'il faut pas surinvestir cet aspect-là. Ça aurait été, on aurait fait l'enquête cette année, ça aurait été François Hollande entre César et Hitler. En réalité, ça c'est aussi typique. Alors Françoise expliquait que les élèves prennent position politiquement, que les récits sont progressistes et qu'on arrive en fait toujours, quasiment toujours à la fin des récits, à la victoire de la démocratie. Et très souvent, on arrive à...
C'est ce qu'on a entendu dans la première lecture.
Et très souvent, on arrive à où en est-on aujourd'hui ? Aujourd'hui, on en est à la victoire de la démocratie. Et quand on a fait cette enquête, en fait, c'était Nicolas Sarkozy président. Et donc, en fait, ce que font les élèves, et ça, c'est aussi très lié à cette trilogie histoire, géographie, éducation civique, ce que font les élèves, c'est qu'ils arrivent, donc ils commencent leur récit, puis ensuite, ils arrivent à la République d'aujourd'hui. Et là où c'est intéressant, en revanche, que ce soit Sarkozy ou un autre, c'est que la République d'aujourd'hui, c'est le président de la République. C'est rien d'autre.
Mais historiquement, cette idée de donner du sens à l'histoire, c'est quand même une vieille idée. C'est-à-dire qu'en fait, toute l'histoire est lue à l'aune du présent et aurait un sens, celui d'arriver à aujourd'hui, qui est peut-être pour les élèves, hein, c'est ce que vous avez dit, il me semble, aujourd'hui meilleur qu'hier.
Mais là, Bruno Garnier l'explique aussi assez bien dans son texte. Alors, il y a aussi le fait quand même qu'on leur demande de raconter. Au départ, c'est raconte comme tu le veux l'histoire de ton pays. Donc, on leur demande de raconter. À partir du moment où on a une forme d'injonction à la narration, les élèves, ils entendent aussi qu'il faut un début et une fin. Donc,
et une évolution positive.
Et une intrigue. Et puis, effectivement, une évolution positive. Alors ça, ça a été...
Parce qu'on n'est pas obligé de lire l'histoire positivement, c'est tout de même un point de vue assez fort.
Oui, tout à fait. Alors, des fois, au lycée, quand ils sont un petit peu plus vieux, les prises de position politiques sont un petit peu plus radicales et peut-être un petit peu plus défaitistes. Ou en tout cas, pas forcément défaitistes, mais ça peut être un appel au changement. En revanche, chez les petits, on voit pas ça, en effet. On voit une histoire qui se termine bien. Voilà.
Dans cette logique de récit, voire de roman, hein, national, autre protagoniste de l'histoire, le peuple. Le peuple, la France extraordinairement présent. Françoise Lantôme est peut-être un peu plus, on le suppose, que pour les générations précédentes.
Alors, on a été frappé justement par le nombre d'occurrences du mot peuple dans les récits, qui parfois recoupe le mot les Français aussi. Il peut y avoir les deux qui sont employés dans le même sens. Et une autre remarque qu'on a pu faire, c'est que ce peuple, il est présenté de façon homogène. Il y a peu de mentions de catégories sociales. Et le peuple est mobilisé quand il se révolte éventuellement ou quand il est dominé, exploité. Donc c'est une sorte d'incarnation d'un collectif qui, d'après les élèves, est tout à fait justifié à se révolter quand les dominants, en quelque sorte, surpassent le pouvoir qui leur est accordé. Et nombre de récits racontent comment le peuple s'est révolté contre les excès de la noblesse ou de l'aristocratie. Ce qui est un peu étonnant, c'est que cette façon de raconter à travers une conflictualité cesse quasiment avec la Révolution. C'est-à-dire qu'après la Révolution, il y a quelques mentions de 1848, de 1830 à peine, de la Commune très peu. Oui, mais comme si la conflictualité avait beaucoup disparu dans le récit des élèves.
Intéressant aussi de voir que au-delà du peuple, il y a la France. La France comme entité qui devient un personnage, et vous citez Paul Ricoeur, Laurence de Kock, qui est le premier à avoir théorisé cette présence. Fernand Braudel aussi faisait de la Méditerranée, voilà, un protagoniste de l'histoire. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime comme une historienne, que je ne suis pas. Avez-vous été étonnée? Et comment comprenez-vous cette présence de la France comme personnage?
J'ai pas été forcément étonnée parce que ça aussi, hein, ce sont des formes de narration historique qu'on retrouve énormément dans les classes, qui sont ajustées aussi à notre manière de penser le politique, hein, dans les débats sociaux ou dans les relations internationales, tout simplement. On a toujours, alors c'est la France contre l'Allemagne, c'est la France, les États-Unis, etc. Donc là encore, hein, ça relève à la fois d'une manière, on va dire, plus simple de dire les choses, sans fractionner, sans faire retour sur de la différenciation, et puis d'une façon de penser une histoire qui est forcément personnifiée avec des entités personnages. Voilà ce que disait Ricoeur.
Cette vision qui transparaît dans les récits des élèves, est-elle homogène? Est-ce qu'on a les mêmes types de récits dans les établissements de centre-ville, dans les établissements de zones d'éducation prioritaire? Tiens, Françoise Lantôme, sur ce sujet.
Alors, nous avions posé une hypothèse que ce récit n'était pas homogène. Et de fait, il est beaucoup plus homogène que ce qu'on imaginait. Cependant, il y a des nuances que certains auteurs de l'ouvrage ont noté. Alors, par exemple, en Corse,
ah oui, c'est intéressant, la Corse.
Voilà, il y a une sorte de récit feuilleté qui est raconté par les élèves et qui associe de l'histoire corse, beaucoup de la mythologie corse aussi, et de l'histoire et de la mythologie française. De la même façon, sur l'île de la Réunion, les élèves font un récit qui est très géographique, très culturel, qui valorise beaucoup la diversité culturelle, le métissage, tout en s'inscrivant par ailleurs dans la grande histoire, entre guillemets, et dans l'histoire nationale. Cependant, sur l'île de la Réunion, il y a quand même plus de 30% des élèves qui évoquent l'esclavage, oui. Ce qui n'est pas du tout le cas dans les récits des élèves de la métropole.
Donc, différences géographiques, régionales,
oui,
et moins sociales. Et moins sociales.
Voilà, différence géographique limitée, mais qu'on peut percevoir quand même un peu, qu'on voit un peu aussi concernant la religion d'ailleurs, parce que l'île de la Réunion, là aussi, des réponses, les élèves ont des réponses un peu différentes, mettant en valeur la pluralité religieuse beaucoup plus que ailleurs. Mais concernant les milieux sociaux, alors il nous faudra là approfondir cette question, mais de ce que nous en avons vu en première analyse, nous n'avons pas vu de grandes différences, de grandes différenciations. Un seul point nous a alerté en quelque sorte, c'est la différence des récits qui nous sont venus des lycées professionnels, dans la mesure où nous avons eu beaucoup plus de non-réponses venant des lycées professionnels, et c'est là aussi où nous avons eu plus de récits un peu farfelus, d'élèves qui ont visiblement de la difficulté à rentrer dans la consigne. Donc il y a là, comme on le sait, les lycées professionnels ont un recrutement essentiellement populaire. Il faudrait là aussi passer plutôt par des entretiens avec les élèves pour avoir leur récit de l'histoire nationale.
Mais oui, Laurence Decocq, vous, au sein du collectif Argermento Histoire, et pour vous suivre aussi sur les réseaux sociaux, cette lecture de l'histoire aussi conflictuelle aujourd'hui avec la colonisation puis la décolonisation et tous les stigmates que la France peut porter encore, cela suscite aussi beaucoup de débats et des débats politiques. Est-ce que vous avez cherché dans les récits des élèves des différences entre les quartiers où on sait que les origines ne sont pas les mêmes ? Origine géographique, des élèves familiales, ethniques.
Mais je me suis posé, comme tous les membres de l'équipe, la même hypothèse que Françoise Lantôme. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où dans notre questionnaire, on a introduit un critère qui nous permettait justement d'interroger cette différenciation-là, on a tous été regardés si elle était présente ou pas. Et mes conclusions sont les mêmes que celles de Françoise. Et même si on devait aller plus loin, dans l'article de Sébastien Urbanski, par exemple, sur la religion, qui est un article vraiment très intéressant, il note par exemple, parce que nous on avait demandé dans le questionnaire qui est à la fin de l'ouvrage, on a demandé aux élèves quelle était la langue qu'ils parlaient à la maison. On ne demande pas quelle est votre religion, etc., mais quelle est la langue que vous parliez à la maison. Alors évidemment, si on prend le discours commun là-dessus, on a tout un de gens qui considèrent que, surtout en ce moment, avec les débats que ça provoque, que quand on ne parle pas français à la maison, généralement c'est qu'on parle arabe, si on parle arabe, c'est qu'on est musulman, et si on est musulman, c'est qu'on est musulman avant tout. Et qu'est-ce que constate Sébastien ? Il constate que dans les récits pour lesquels les élèves disent qu'ils ne parlent pas français à la maison, mais il n'y a pas plus d'islam ou plus d'une autre religion que dans d'autres récits. Donc Françoise Lantôme a raison de dire que ça, c'est des choses qu'il faut qu'on creuse. De toute façon, ce corpus, il y a encore énormément, énormément de recherches à en tirer.
7000 élèves interrogés, je le rappelle.
Voilà. Et puis, il y a plein de choses. Il y a des dessins, par exemple, beaucoup de dessins qu'on n'a pas analysés, on n'a pas encore fait ce travail-là. Et donc, mais en tout cas, ce critère de différenciation, ce qu'il y a de certain, c'est qu'il est vraiment à affiner. Parce que pour le moment, nous, dans ce gros travail déjà de décodage qu'on a fait, il ne nous a pas semblé pertinent.
Et sur la place de la religion, vous venez de l'évoquer rapidement, quelle est-elle dans ces textes d'élèves ? La religion chrétienne en particulier est présente dans l'histoire de France. Comment en parle-t-il, Françoise Lantôme ?
L'analyse que fait Sébastien Urbanski montre que, en fait, il y a l'immense majorité des récits sont des récits qu'il appelle laïcisants. sont des récits pour, dans lesquels la religion est associée au pouvoir essentiellement, et c'est quelque chose du passé. À côté de cela, il y a quelques récits, une minorité, qui mettent en avant la religion chrétienne. Positivement ou négativement, mais qui en tous les cas la mettent en avant. Donc on peut dire, et puis il y a le cas de la Réunion dont j'ai parlé tout à l'heure, qui met en avant la pluralité religieuse. Donc on peut dire que très majoritairement, les récits des élèves sont sécularisés, voilà, et voire même laïcisés. La religion est essentiellement prise sous l'angle de l'institution, pas du tout sous l'aspect spirituel, mais c'est le clergé, par exemple, qui est évoqué, avec parfois des différences entre les filles et les garçons, par exemple.
Ah bon, les
garçons
ce jour de manif pour tous, ce n'est pas inintéressant, voilà, d'en parler, alors dites-moi.
Les garçons mettent plus en avant la dimension justement politique, guerrière de la religion.
Les croisades, oui.
Les croisades, bien sûr.
Voilà.
On a parlé des sources multiples auxquelles les élèves s'abreuvaient pour leur connaissance historique. Je propose d'écouter un petit extrait d'une émission télévisée.
Ah, Feuillade! Alors?
Alors, notre stratégie a fonctionné à merveille. Succès total!
Le roi a aimé notre cadeau?
Aimé, mais vous vous raillez! Il a adoré!
Oh, le ciel soit loué! Vous voyez que c'était une bonne idée, Marie-Louise?
Il faut dire que vous y avez mis le prix, Philippe. Cet étalon à rame nous a quand même coûté le fermage des pavillons.
Certes, mais n'oubliez pas que le but est de vous réouvrir les portes de Versailles. Vous avez marqué des points, Philippe, énormément de points.
Oh, vous entendez, Marie-Louise? Nous allons pouvoir retourner à la cour. Feuillade, vous êtes notre sauveur!
Allons, allons. En revanche, si vous êtes amené à croiser le roi, pas un mot, s'il vous plaît.
Ah, bien sûr. On a sa pudeur.
C'est surtout que j'ai dit que le cadeau venait de moi.
De vous?
Mais bien sûr.
La petite histoire de France, c'est un programme diffusé sur W9. Les programmes qui racontent, parlent de l'histoire de France sont très nombreux à la télévision. Des documentaires, mais aussi des docu-fictions, des programmes de télé-réalité. Alors M6 est un grand spécialiste. Et puis ces fameuses enquêtes, ces fameuses intrigues. La petite histoire de France, ce sont des juxtaposition de scénettes. Je sais parce que je connais des enfants qui regardent, où on alterne le Moyen-Âge, où on parle de Jeanne d'Arc, des scènes à Versailles avec Louis XIV, des grognards de Napoléon, etc. Enfin, moi, je n'ai pas vraiment bien regardé, mais sur ces sources très populaires, hein, télévisées, par exemple, Laurence de Kock, est-ce que vous avez pu voir à quel point elle comptait, elle pesait dans les récits des élèves?
Alors ça, dans l'équipe, c'est Vincent Chambarla,
oui,
qui a écrit l'article là-dessus.
Le collectif.
Oui,
hein.
Je renvoie à l'auteur qui a le plus travaillé cette question. Oui, bien sûr. Hein. Alors évidemment, ça c'est extrêmement compliqué de le savoir. On a demandé, hein, aux élèves, on a dans le questionnaire, on demande si ça vient de la BD, des films, etc. Donc, on a en effet constaté que la place de l'école dans les questionnaires, elle est très importante, mais qu'en réalité, elle n'est pas si importante qu'on pourrait le croire. C'est-à-dire, je crois qu'on est à 60% contre 40%, il faudrait vérifier les chiffres, de gamins qui ont mis l'école en première position. Mais en réalité, on voit bien que ces questionnaires-là, enfin, les réponses sont un petit peu biaisées, parce que quand on regarde les récits, c'est à partir de ce paratexte qu'on peut saisir que c'est parfois tellement éloigné de ce qui s'enseigne aujourd'hui dans les classes,
oui,
que nécessairement ça vient d'ailleurs.
Françoise Lantôme, moi je relève une forte dichotomie entre l'histoire télévisée, pour prendre cet exemple-là, bon à la radio on ne fait pas vraiment la même chose, surtout sur France Culture, mais l'histoire télévisée qui est soit anecdotique, souvent, soit basée sur des intrigues avec des personnages hyper connus dont on peut réactiver le souvenir commun, et une histoire scolaire qui enseigne plutôt les systèmes politiques, les grandes évolutions, et qui s'appuie sur des ressorts tout à fait différents.
Oui, alors ce qu'on voit, c'est que les élèves, en fait, construisent leur conscience historique autour de ce que Jocelyn Les Tourneaux, qui co-dirige l'ouvrage avec moi, ce qu'il appelle une mythe-histoire. Et cette mythe histoire, elle est constituée de savoirs académiques qu'ils ont souvent appris à l'école, mais pas que à l'école, et également de tout un tas de savoirs socialisés dans les familles, dans les moyens de communication, dans les jeux qu'ils peuvent utiliser aussi. Et c'est cet ensemble qui construit finalement le récit que font les élèves. Alors, sachant que cette mythe histoire, comme l'appelle Jocelyn Letourneau, nous informe aussi sur la posture des élèves par rapport à l'histoire nationale. C'est-à-dire, pour eux, c'est une façon de se l'approprier. Et ils s'approprient l'histoire nationale, pas seulement à l'école, mais depuis qu'ils sont enfants au sein de la famille. Et nous avons été aussi étonnés du voir le nombre de mentions qui sont faites à des membres de la famille qui sont porteurs de mémoire dans la famille. Alors, c'est surtout dans les récits faits par les plus jeunes qui évoquent le grand-père, la grand-mère ou je ne sais qui leur a dit que, etc.
Donc, c'est cet ensemble. Avec la dernière guerre en France, guerre d'Algérie, il n'en est pas fait beaucoup mention dans l'ouvrage, mais sur la guerre 39-45, c'est aussi un récit qui se transmet dans les familles. On a un petit extrait de lecture encore avec notre stagiaire Nils, qu'on va entendre. Il parle du général de Gaulle.
Le général de Gaulle était parti en Angleterre. Les Juifs étaient condamnés à mort dans des chambres à gaz, et c'est comme ça que le marché noir se développa. Patton, le général de l'armée américaine, il mit au point une attaque. Ils débarquèrent en Normandie le 4 juin 1944, le jour J. Quand c'est fini, Louis Margot, mon grand-père, découvrit le site des V2.
Mon grand-père, récit à la première personne. Alors je précise que Nils a lu les récits, les textes tels qu'ils étaient retranscrits dans l'ouvrage Syntaxe comprise. Laurence Decoq, une histoire racontée à la première personne, c'est intéressant ça.
Oui, c'est intéressant parce que c'est vraiment une décomplexion par rapport au grand interdit de l'histoire académique qui est la subjectivité.
En tant qu'historienne.
Voilà, alors plutôt moi en tant que pédagogue et didacticienne, ça me plaît beaucoup cette histoire, le fait que des élèves assument finalement de s'insérer comme sujet dans les récits dont ils parlent et puis de nous emmener effectivement dans leurs histoires familiales. Alors là, évidemment, il y a un certain nombre de récits qui sont cités dans cet ouvrage. Il y en a beaucoup, bien sûr, beaucoup plus qui ne sont pas cités. Il faut savoir qu'il y a des récits qui sont limite poétiques, voire absurdes et qui ont un rapport au passé national qui est extrêmement lointain, mais en revanche avec une subjectivité incroyable, y compris des moments où des élèves racontent des histoires de grand-mère déportée, d'assassinat, enfin voilà, on sent que ça réveille des choses qui renvoient à un passé. Alors là, pour le coup, ils prennent complètement la liberté d'en finir avec la consigne et ils partent dans quelque chose qui les met dans leur propre récit.
Parce que l'histoire enseignée au collège et au lycée, c'est la réflexion que je me suis faite en lisant cet ouvrage et en réfléchissant à la place de ces personnages entre guillemets et aux critiques qui en sont faites politiquement, l'histoire c'est beaucoup l'histoire du XXe siècle qui en troisième, en terminale, ça prend beaucoup de place et finalement les élèves s'y retrouvent, même c'est pas si loin. Séverine Yatard.
Moi c'était sur cette question du jeu où je vous connais quand même dans une société du jeu. Et donc, vous faisiez plutôt la relation avec l'histoire universitaire qui, elle, valorise maintenant cette idée que l'histoire, elle s'écrit à la première personne du singulier. Mais c'est vrai qu'on est dans cette société du jeu qui valorise le jeu. Il y a beaucoup d'ouvrages, justement, à connotation historique qui, justement, partent d'une histoire personnelle pour qu'il y ait une identification et pour que ça se vende mieux. Donc, je ne suis pas si étonnée, finalement, moi, qu'ils s'approprient assez bien ce jeu.
Mais même des récits assez
jeu.
Sérieux, parce que oui. Yvan Jablonka a écrit l'histoire des grands-parents, de ses grands-parents qu'il n'a pas connus, pour essayer de citer à peu près le titre précisément. C'est un historien.
Oui, mais alors là vraiment, je crois qu'on s'éloigne énormément référents des élèves. Je ne voudrais pas vous... Mais non, alors il y a aussi autre chose qu'on n'a pas dit, hein, c'est le poids de la consigne. C'est-à-dire qu'on leur dit « raconte ». Donc nous, on est dans le « tu hein, » ou dans le « vous ». Donc c'est aussi finalement pas si étonnant que certains nous répondent par « je ». C'est-à-dire qu'on leur demande. Hein. Et par ailleurs, au départ, on s'était dit entre nous que c'était pas simplement le professeur d'histoire qui donnait ses questionnaires à remplir. Ça pouvait être un professeur de français, ça a été des professeurs des écoles. Et donc, il y a aussi cette liberté avec les référents académiques qui a été prise du fait même de la situation des dénonciations.
Mais oui, Françoise Lantôme, il faut préciser, dans la méthode, on n'a peut-être pas assez dit au début, vous avez dit aux élèves que c'était un exercice de liberté.
Oui, je pense que ça, c'est important de l'avoir en tête quand on lit les résultats de cette enquête, puisque ce n'est pas du tout un exercice scolaire qu'on a demandé aux élèves. Ça n'a rien à voir avec une évaluation scolaire. Et si, sur le même sujet de l'histoire de France, on avait construit une évaluation scolaire avec des questions précises, les élèves auraient sans doute répondu d'autres choses. Là, ce qu'on leur demande, c'est un récit. Et nous sommes partis du présupposé, en quelque sorte, que ce qui y est appris à l'école ou ailleurs, ce qui est mémorisé, se traduit à un moment donné ou l'autre par un récit. Que ce soit un récit des historiens ou autre, d'ailleurs. Et là, nous demandons un récit fait par les élèves. Donc, il était bien dit aux élèves que leur texte était anonyme, que donc ils avaient toute liberté pour écrire ce qu'ils voulaient. De la même façon, nous avions donné une lettre de consigne à ceux qui recueillaient les textes des élèves, et ces consignes indiquaient bien qu'il fallait être d'une totale neutralité et qu'il n'y avait pas de mauvaise réponse. Donc les élèves ont pu, en toute liberté et quiétude, j'ai envie de dire, raconter, puisqu'il s'agissait bien de raconter, et que je suis d'accord avec ce que disait Laurence de Coq précédemment, l'appel au récit et le fait que les élèves avaient en face d'eux un destinataire supposé qui était les enquêteurs.
Et dans leur esprit. Et pas des enseignants, pas leur enseignant.
Voilà, exactement. C'était des enquêteurs anonymes, mais en même temps des enquêteurs qui partagent avec eux le contexte de l'histoire de France. Donc il y a beaucoup de raccourcis qu'ils font, et notamment dans la façon de convoquer tel ou tel personnage ou tel événement, où ils ne prennent pas la peine d'expliquer plus précisément. En gros, parce qu'ils savent que nous, enquêteurs, nous sommes censés savoir, puisque nous partageons tous le même. La même écologie nationale, en quelque sorte.
Beaucoup de prérequis aussi attendus par les élèves du côté des adultes. C'est quelque chose qu'on note quand on enseigne également. Les élèves croient qu'on sait tout. Concernant la dimension politique de cet ouvrage, on ne va pas terminer sans en parler. Je faisais mention en début d'émission de certaines interventions, particulièrement du côté du parti Les Républicains, sur l'enseignement de l'histoire qui serait trop thématisé. Pour le dire très rapidement, Laurence de Coq, est-ce que cet ouvrage est une forme de réponse? Est-ce que votre article dans cet ouvrage est une forme de réponse à ces prises à partie des enseignants d'histoire et de l'enseignement de l'histoire?
Ça va être, je dirais presque malheureusement, utilisé comme une forme de réponse. On ne l'a pas du tout pensé comme ça, parce qu'on l'a vraiment... vous savez, il faut imaginer...
Non, mais dans ce cas, il faut lever cette ambiguïté.
Oui, oui. Il faut vraiment imaginer que c'est 5 ans de travail. Donc, ce n'est pas du tout un calendrier politique ou politicien. C'est vraiment un calendrier de la recherche, et j'insiste là-dessus. En revanche... Moi, je trouve à titre personnel qu'il tombe bien. Il tombe bien parce qu'effectivement, normalement, alors vous dites les Républicains, mais je crois que c'est assez partagé la méconnaissance de l'enseignement de l'histoire. Normalement,
non, mais la dénonciation, oui, d'une certaine manière, oui, de l'enseigner. On va y revenir avec Séverine Yatar, oui, oui, en fin d'émission.
Là, pour l'instant, c'est vrai que c'est eux qu'on a entendu le plus, mais je ne désespère pas d'entendre tout le monde s'exprimer sur l'enseignement de l'histoire, puisque tout le monde a toujours plein de choses à dire sur ce sujet. Donc, ce livre peut servir à ça, c'est-à-dire à un moment donné dire, pour parler de l'enseignement de l'histoire, il faut prendre son temps et il faut accepter de rentrer dans des choses qui intéressent moyennement les gens qui en parlent, c'est-à-dire dans les arcanes et dans la boîte noire. Si ce livre peut servir à ça, alors oui, d'une certaine manière, on peut dire que c'est un résultat qui pourra, en tout cas moi, me satisfaire. Mais ça n'a pas été fait pour ça.
Bon, avec une subtilité dans les résultats, j'espère qu'on a pu en rendre compte. Dernière lecture de Nils, élève de 3e, qui lit donc des textes de collégiens. Il parle de l'esclavage et ça m'a beaucoup intéressée.
La date la plus importante pour moi est le jour de l'abolition de l'esclavage. C'est comme pour le droit de la femme, c'est important que tout le monde soit considéré égaux. Mais malheureusement, l'esclavage existe encore. Des gens sont exploités. Mais aussi les femmes. Il y a des hommes qui ont le même emploi qu'elles et qui gagnent plus. C'est l'inégalité. Ces deux événements sont pour moi les plus importants, même s'ils ne sont pas complètement accomplis.
Et comment ? Un texte qui illustre aussi une tendance, peut-être, enfin c'est ce que j'ai compris, des élèves à s'identifier ou en tout cas à prendre en compte, plus que par le passé, le cas des minorités, mais aussi des victimes, entre guillemets, de l'histoire. Françoise Lantôme, que diriez-vous de cette dimension ? Est-elle vraiment nouvelle d'ailleurs ?
Alors, bon, je n'appellerai pas les femmes une minorité, d'abord.
Non, c'est vrai, mais en termes d'histoire et comme personnages cités, pour le coup, elles sont minoritaires dans les récits.
Oui, en termes de personnages. Mais en revanche, Laurence de Kock et Benoît Falaise ont bien montré que le groupe, les femmes, faisait une entrée remarquée dans les récits des élèves.
Ce qui est frappant dans le...
Oui. Dans l'extrait qui vient d'être lu, ce qui est frappant aussi, c'est le présentisme. C'est-à-dire les élèves parlent d'aujourd'hui. Ils parlent aussi de l'esclavage qui continue d'exister. Et on voit aussi que c'est un principe politique qui justifie leur jugement, à savoir le principe d'égalité. Et au début, l'élève dit « pour moi ». On voit bien l'engagement personnel. Donc dans cette façon de raconter, il y a à la fois une façon de se positionner soi, un enfant encore à 11-12 ans, ou un adolescent, qui se positionne et qui se positionne dans le monde. Et dans le monde, il réalise que effectivement il y a des groupes différents, mais qui sont moins... pour les élèves en tout cas, qui sont moins identifiés comme des catégories sociales que comme des groupes entre les victimes, les dominants, les femmes et autres. La seule petite exception à cela, je le vois à la réunion où Raoul Lucas et ses collègues ont pu montrer que la dimension sociale était plus présente dans la façon de raconter l'histoire.
Autre territoire, autre histoire, après tout, aussi, et pas seulement, mais aussi, parce que l'histoire de France fait partie de leur récit, Laurence de Kock, et rapidement, parce qu'on va passer à la dernière partie de l'émission, sur ces groupes de victimes auxquels les élèves s'identifient. Et là, je reprends vraiment une phrase du livre.
Oui. Il y a indéniablement une sorte de paradigme victimaire qui touche les manières de dire l'histoire de France, pas simplement à l'école, mais aussi dans l'historiographie depuis les années 90. Ce qu'il y a d'intéressant là, c'est donc le rapprochement qui est fait entre les femmes, les esclaves, qu'on trouve parfois dans d'autres récits, par exemple, entre les poilus et les esclaves. Donc vous voyez, il y a une manière aussi d'interroger des groupes sociaux qui est vraiment sous l'ordre de la dénonciation de l'injustice. Et là aussi, on est dans un principe politique.
Et juste, moi, je me disais, finalement, l'histoire, c'est quand même peut-être cette seule discipline où il y a possibilité de prendre position. Parce que là... on voit cette volonté, enfin, chez ces jeunes collégiens, etc., de faire cette association avec le passé, le présent, l'usage politique,
en débat et prise de position.
Parce qu'en littérature, est-ce qu'on prend position comme ça ? Finalement, l'histoire, c'est peut-être pour eux l'occasion de s'insérer dans la société, de donner une opinion. Alors peut-être que parfois c'est maladroit et aussi.
En tout cas, ce qui est assez jubilatoire pour certains d'entre nous, c'est que c'est en revanche une discipline qui se défend de tout engagement. C'est-à-dire que c'est la discipline qui va mettre en avant le plus la neutralité politique à tout prix. Or, en réalité, on voit bien que c'est effectivement un tremplin très très intéressant pour les élèves, pour prendre position, oui.
Et je rappelle le titre de l'ouvrage, Le récit du commun, l'histoire nationale racontée par les élèves. C'est édité aux presses universitaires de Lyon. Toutes les références sont sur le site de France Culture à la page de Rue des Écoles. On passe à la toute dernière partie.
Vous écoutez France Culture, rue des Écoles, par Louise Touré.
Faites passer les feuilles rapidement, s'il vous plaît. Allez. Tout le monde y est ? Alors, on a présenté le contexte de l'Allemagne, en 1918-1919, la République de Weimar. Et on voit qu'au début des années 30, vous vous souvenez, on l'avait évoqué la dernière fois, l'Allemagne est frappée par une crise économique et sociale de très grande importance. On l'avait dit la dernière fois. Voilà. On va juste, nous, voir, si vous comprenez bien, toutes les différentes informations du document.
Allez, est-ce que, par rapport à la question 4, est-ce qu'on parle du chômage qui a augmenté aussi en même temps ?
Oui, bien sûr. Faut mettre en relation les deux.
D'accord.
D'accord.
Donc on dit plus le taux de vote pour le parti nazi a augmenté, plus le chômage a augmenté.
Ah, tu penses que c'est dans ce sens-là ? Plus on vote nazi, plus le chômage augmente.
On a l'impression, parce que vu que là, c'est les voix obtenues par le parti nazi.
Ouais. Et tu penses que c'est dans ce sens-là véritablement que ça fonctionne ? C'est pas l'inverse ?
Bah, pourquoi la courbe monte alors ?
Bah, la courbe monte parce qu'il y a la crise économique, il y a de plus en plus de chômeurs. Il y a de plus en plus de chômeurs, donc on a dit qu'il y avait de plus en plus de pauvreté également. Et donc les gens disposent du droit de vote et vont utiliser ce droit de vote pour protester contre le gouvernement.
Ah, d'accord.
Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Termine ma phrase.
Donc ils vont voter pour le parti nazi.
Oui, uniquement le parti nazi ?
Non.
Enfin, quel autre parti ?
Le parti communiste.
Alors, tu me fais une ou deux phrases pour...
La voilà, scène ça, de vie de classe, de cours d'histoire, c'est la fabrique de l'histoire scolaire, un nouveau programme sur France Culture réalisé par Véronique Samouilov au sein de la fabrique de l'histoire. Séverine Yatar, vous produisez ce programme, on vous a déjà entendu, donc dans ce spécial histoire, on reste vraiment dans le sujet. Alors, déjà pourquoi, question naïve, mais...
Bah, on s'est dit que la fabrique de l'histoire, voilà, on parle beaucoup de l'histoire à un niveau universitaire, de la recherche historique, et en même temps, tout en y pensant et en réfléchissant parfois, comment s'opère cette transmission aussi du haut vers le bas, les enfants, qu'est-ce qu'ils acquièrent comme savoir. Et puis il y avait aussi toutes ces problématiques de polémique entre les adeptes du roman national, d'une histoire plus problématisée, enfin qui revient sans cesse.
La présence du sujet dans le débat politique
a pesé. Nous, on a fait pas mal de débats sur ce sujet-là, évidemment, à la Fabrique de l'Histoire. Et puis, on se disait, on va aller voir sur le terrain comment ça se passe. Alors, c'est un projet un peu vaste et peut-être
Tous les jeudis,
c'est tous les jeudis, en début d'émission. Donc, l'idée, c'est de faire à la fois des reportages dans des classes, alors de tout niveau, du primaire à la terminale, dans des établissements différents, des établissements d'excellence, mais aussi des établissements classés justement REP, REP+, ou de la FESPI, donc qui sont plutôt des établissements d'innovation pédagogique. Et puis, c'est d'essayer d'évaluer aussi les outils pédagogiques, comment on enseigne aujourd'hui, est-ce que c'est du cours magistral, parce que face à un public extrêmement hétérogène, ça j'ai pu en prendre conscience, là même pour ce premier feuilleton, comment un enseignant peut transmettre un savoir quand il sait que certains élèves comprennent tout de suite, d'autres un peu moins vite, donc il faut aménager des plages pour aider les uns, que d'autres approfondissent. Enfin bon, on en avait aussi discuté avec Laurence de Coq avant justement de commencer ce feuilleton. Donc c'est un petit peu cette idée-là, de voir aussi les associations de professeurs d'histoire géo.
Oui, vous avez consulté beaucoup de collectifs, de professeurs.
Enfin beaucoup, un petit peu en tous les cas, pour commencer, pour avoir des idées bien sûr, parce que finalement, nous à la Fabrique de l'Histoire, on n'y est pas dans le secondaire et dans le primaire, même si en théorie, on en parle.
C'est très important d'aller dans les classes.
Donc voilà, et puis l'histoire des ouvrages scolaires aussi, comment sont, des outils. Est-ce qu'ils sont utilisés ou pas, qui les écrit.
Oui, alors cette dimension,
on essaiera d'étudier.
Et des ouvrages, des manuels, comme on dit. Comment allez-vous la traiter et vous y intéresser dans les prochains épisodes ?
Beaucoup d'ouvrages sont écrits par des enseignants d'histoire du secondaire. Après, il y a aussi les éditeurs derrière. On essaie de faire des beaux manuels, généralement, maintenant qu'on fait. Laurence de Coq vous confirmerez. Après, est-ce qu'ils sont si utilisé que ça par les enseignants, bon, a priori pas tant que ça. Il y a aussi le livret du professeur. Enfin, il y a plein d'outils. Puis il y a toutes ces activités aussi qu'on ne connaît pas. Enfin, moi, pour ma part, je ne savais pas toutes ces activités possibles qui sont proposées avec les archives nationales, les bibliothèques, les centres de documentation divers ou une autre manière d'enseigner l'histoire en tous les cas.
Avec beaucoup de documents.
D'autres partenaires.
Parce que l'enseignement de l'histoire aujourd'hui au collège et au lycée. C'est beaucoup des études de documents, Laurence de Coq,
ouais, j'ai
précisé, tous les auditeurs ne le savent pas.
Oui, et on l'a très bien entendu là dans le reportage que vous avez montré, parce qu'on voit que le professeur et l'élève, ils sont deux, elle a complètement inversé le rapport de causalité, il part des courbes et il arrive à lui faire comprendre que finalement c'est exactement l'inverse de ce qu'elle pensait. Oui, bien sûr, c'est ça faire de l'histoire, c'est travailler à partir des sources ou à partir de différents documents pédagogiques.
Ça a changé, je pense. Hein. Ouais.
Voilà, un changement noté dans la fabrique de l'histoire scolaire et dans Rue des Écoles. Je remercie toute mon équipe, Laurence Genepin, attachée de production, Assia Ralid à la réalisation, à la technique aujourd'hui, Théo Gomard à Paris, accompagné de Dalia, que je remercie pour son aide, et Claire Vuillot à Lyon. N'oubliez pas de nous podcaster. La semaine prochaine, nous parlerons de l'intérêt de se tromper, de l'intérêt de l'échec et de la pédagogie de l'erreur, en éducation. Voilà, excellente soirée à vous tous sur notre chaîne sur France Culture.